Bien, on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. L'objet de cet atelier est de vous montrer comment les acheteurs s'organisent avec le secteur pour être efficaces et pour pouvoir pratiquer des achats responsables de la façon la plus intelligente qui soit. Et donc, nous sommes sur. Oh là, qu'est-ce que c'est la réactualisation? C'est pas ça. Toc, voilà. Donc, nous sommes deux organisations ici qui travaillons de concert. L'OPSAR, l'Observatoire des achats responsables, que je vais me permettre de vous présenter très rapidement, et Andeco, que vous connaissez peut-être déjà, mais qui mérite d'être effectivement représenté à nouveau. Alors, l'Observatoire des achats responsables, une association relativement jeune, puisque nous avons 6 ans d'âge, et donc a été créé entre des personnes responsables respectivement de leurs organisations achats, à commencer par Pierre Pelouzet, qui était à l'époque président de la CEDAF, la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France, et dans le civil, il était directeur des achats de la SNCF, et votre serviteur, donc Gérard Bruneau, qui était à l'époque chargé de mission interministérielle pour les achats responsables, poste à l'époque unique à l'État pour l'ensemble des ministères. Ça a un petit peu changé depuis, heureusement. Et donc, nous avons souhaité créer cette association privée-publique de façon à pouvoir accompagner les acheteurs, comment dire, mutualiser les bonnes pratiques. Hein, créer des groupes de travail sur des thématiques qui permettent d'avancer sur les achats responsables. Alors, achats responsables, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, simplement le fait d'associer à ces politiques et à ces pratiques d'achat des objectifs de développement durable, des objectifs de responsabilité sociétale, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques, voire encore de bonne gouvernance. De façon effectivement à faire en sorte que les entreprises et les services publics s'orientent vers des politiques qui soient porteuses de développement durable, de progrès social et effectivement d'efficacité économique en termes plutôt de pérennité, c'est-à-dire d'efficacité économique de long terme. Ce n'est pas pour le plaisir de récupérer tout de suite des gains achats ou un certain nombre de bénéfices budgétaires, c'est surtout pour travailler sur les économies de long terme. Donc, on a développé cette association et nous avons commencé une espèce de croissance. Et puis, derrière, voilà, nous sommes lancés sur donc un travail de fond, à la fois sur un plan normatif, parce qu'on a travaillé avec l'AFNOR pour réaliser la première norme achat responsable en France. Alors, pour ceux qui veulent des références, je vous la cite, c'est NFX 50-135. Donc, je peux répéter si vous le souhaitez. Alors, 50-135, norme achat responsable, qui est devenue la base de travail d'un travail collectif à l'ISO, International Standard Organization, pour la réalisation d'une norme internationale achat responsable, là aussi en déclinaison d'ISO 26000, hein, qui est la norme de recommandation sur la RSE ou RSO, si vous préférez, responsabilité sociétale des organisations, qui a été enfin, choisie comme référentiel pour être déclinée sur le processus achat, donc dans les politiques, les stratégies, l'organisation et les pratiques des acheteurs, donc souhaitant mettre en œuvre des objectifs de développement durable et de RSE dans leur politique achat. Donc, pour ce faire, donc, vous voyez la définition rapidement des achats responsables au niveau de l'écran. Et nous avons lancé un certain nombre de sujets d'accompagnement qui nous ont permis d'ailleurs d'alimenter le travail de dialogue préalable à la définition de la directive européenne achat public, marché public, qui a été donc adoptée par le Parlement européen en février 2014 et qui est en cours de transposition en France, puisque l'ordonnance du 23 juillet 2015, puis le futur décret qui va paraître dans les prochains jours. Alors, je vous annonce qu'il est sorti du Conseil d'État. Donc maintenant, il est à la dernière ligne droite avant publication, sachant que le ministre Emmanuel Macron s'est engagé à le sortir avant le 1er avril, hein, date de mise en œuvre d'ailleurs du nouveau, de la nouvelle réglementation de l'ordonnance et du décret que je viens de citer. Et donc tous ces textes-là embarquent avec eux des objectifs d'achat responsable. Et c'est une nouveauté de façon très organisée, quoi. C'est tout à fait important. Donc l'Obsar, on accompagne cela avec des groupes de travail entre nos adhérents. On a 125 adhérents aujourd'hui, privés et publics, donc pour travailler sur des thèmes aussi variés que les indicateurs, le coût global, le mieux-disant, etc. Et notamment les achats socialement responsables, dont les achats adressés au secteur du handicap, c'est-à-dire des secteurs adaptés, protégés. Nous avons d'ailleurs à ce titre-là un groupe de travail qui a sorti un petit livrable qui est disponible gratuitement sur notre site. Vous pouvez le télécharger, hein, sans aucun problème. Il s'appelle « Achat responsable, levier pour l'insertion » qui peut vous accompagner pour la mise en œuvre à la fois des achats comportant des objectifs d'insertion de personnes éloignées de l'emploi, comme ça a été le cas, enfin comme ça a été développé dans l'atelier précédent par nos amis de la Vise, ou des achats porteurs de commandes au secteur du handicap, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment avec Andeco, puisque nous avons avec nous et dans notre politique de partenariat travaillé à la création d'Andeco, donc association qui va vous être présentée maintenant par Joseph Ramos, son délégué général, qui est là exclusivement pour faciliter les relations entre la demande et l'offre, ou entre l'offre et la demande, vous mettez ça dans l'ordre que vous souhaitez, c'est-à-dire en fait entre les acheteurs publics, privés, et les secteurs du handicap, les ESAT et les EA, qui est là pour effectivement permettre aux acheteurs de développer de bonnes pratiques d'achat. Donc présentation d'Andeco, puis on viendra après en dialogue, le moment venu, quand l'ensemble des prestations d'Andeco vous auront été présentées par Joseph.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont encore là ce soir, à cette heure-là. C'est vrai que les rangs se sont un peu démunis. En tout cas, on est heureux de vous accueillir ce soir sur cet atelier. Andeco est une jeune organisation.
Ah, je suis revenu.
C'est le mariage réussi.
C'est ça que je veux.
Des acheteurs et du secteur.
Voilà, c'est bon.
En fait, ce qui était innovant, d'ailleurs, à la création d'Andeco, c'est d'avoir dans un tour de table à la fois les fédérations, gestionnaires d'établissements, donc les grandes fédérations. L'APF est largement représentée ici aujourd'hui dans le salon, mais d'autres, hein, la Fédération des APAGE et la FEGAPI. Et d'avoir aussi les organisations d'acheteurs. Donc notre genèse, ça a été de construire un véritable moteur de coopération entre les acheteurs et le secteur. Ça, c'est on se positionne comme organisme intermédiaire et on a vraiment développé une offre de services, un bouquet de services, d'outils et de services d'ailleurs, qui répondait à des besoins d'acheteurs, co-construits avec les acheteurs, pour les acheteurs. Donc là, vous avez des outils. On a le premier, c'est un annuaire, une base de données très qualifiée que vous retrouvez, qui référence l'ensemble des fournisseurs ESAT EA sur le plan national. Donc c'est 2100 établissements. Là, vous avez un panel le top 70 de... D'accord. Merci, Gérard. Donc vous avez sur l'annuaire, vous trouverez des organismes référencés, donc des établissements de manière très très qualifiée. Ça va de la raison sociale aux certifications, en passant par le nombre de salariés, le capacitaire et les coordonnées des personnes ressources dans les établissements et chez les fournisseurs.
Donc là, pour faire le sourcing acheteur, il y a tout ce qu'il faut.
Premier niveau de sourcing, je regardais encore, on était sur le stand. Je vous invite d'ailleurs, P10 et P11, à venir nous rencontrer sur le stand, ce sera plus simple. En plus, il y a un accès Internet. Vous avez une base de données hyper qualifiée. Vous tapez location de salle Paris 75 et vous avez les 5 fournisseurs qui sont identifiés et très rapidement, avec un niveau de qualification intéressant, je trouve. Je voyais le premier, ça devait être l'ESA de Turbulence, qui dit, ben voilà, on est capable de faire, nous, un 220 personnes assis en buffet. Vous pouvez aller jusqu'à 300 debout. Donc, un premier niveau de sourcing, je parle bien d'un niveau de sourcing, et là, sans l'intervention d'une équipe opérationnelle. Vous êtes internaute et vous y accédez là directement, c'est le premier niveau.
C'est donc le centre de la cible qu'on a au...
Oui, c'est le centre de la cible, avec des outils, puisqu'on a aussi une place de marché, une e-marché qui permet de pousser des consultations, des appels d'offres. Et on a des outils très performants. Je pense à un dernier, mais qui n'est plus dernier, ça fait un an qu'on l'utilise. Mais vous pouvez, à partir de l'outil, faire de la recherche multicritère. Donc, ce que je vous disais, vous tapez la famille d'achat, vous tapez le lieu, éventuellement le département, la région, et vous avez les établissements qui sont référencés. Et quand je dis les établissements, c'est l'ensemble des établissements référencés. Il n'y aura pas de « je suis adhérent de telle fédération, de tel réseau ou autre ». Vous avez l'ensemble des établissements. Et ce qu'on a imaginé pour être encore plus performant, alors là, on est sur l'accès privé pour le coup, même si nos services sont peu coûteux, on a une fonctionnalité de géolocalisation. Vous savez, comme c'est Google... c'est Google Maps. Vous dites, je suis au Palais des Congrès, je veux dans les 20 km ceux qui sont en capacité de faire de la location de salle, et vous allez voir les languettes qui s'affichent avec les coordonnées, et vous cliquez et vous arrivez directement sur les fiches des établissements. Donc ça, on est dans le sourcing de premier niveau, qu'un outil qui vous permet de savoir si effectivement, est-ce que les établissements, il y a plus de 2500 activités référencées, qu'on n'imagine même pas, et nous on en découvre tous les jours, je dirais aussi, parce que c'est un secteur très innovant qui innove sans cesse et qui se développe, et de fait qui répond de plus en plus à des besoins très, très précis des entreprises.
Alors donc, ça, si je peux me permettre, c'est pour aller chercher la solution près de chez soi, sur un besoin déterminé, rapide, etc. Mais bien entendu, il y a des acheteurs... je dirais, qui cherchent beaucoup plus que ça, à la fois d'un point de vue, je dirais, massification de l'achat, qualitatif. Je veux dire, je veux faire, par exemple, je sais pas, la destruction de mon parc d'ordinateurs. Je pense qu'un petit ESAT du coin ne va pas suffire. Il faudra probablement aller chercher une filière ou des choses comme ça.
C'est là où on peut intervenir, et c'est là où, en fonction de la maturité du donneur d'ordre, en fait, Gérard. En fait, on peut intervenir à tous les niveaux de la chaîne. De la stratégie achat jusqu'à l'accompagnement d'un besoin identifié ou non, d'ailleurs, puisqu'on accompagne les entreprises sur l'identification de nouveaux potentiels. Et là, on a passé le niveau de que font les ESAT et les EA. Parce que font les ESAT et les EA, on peut le trouver sur l'annuaire, on peut les contacter, là, vous en avez un certain nombre. Mais nous, on va au-delà, parce que les entreprises sont plus exigeantes encore aujourd'hui. Certaines ont leur quota, ont dépassé, sont à 8%. Donc, on est vraiment plus dans... Le retour du B, là, on est vraiment dans des...
Unités bénéficiaires, les UBE.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Le retour du niveau... Donc, on est dans la loi de 2005, là, l'obligation d'emploi. Donc, on n'est plus dans ça, mais on est qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux, et comment aller plus loin. Et donc, on n'est plus sur des prestations récurrentes, on est plutôt sur des prestations métiers. Et là, c'est là où on peut avancer, on peut avoir de belles histoires avec les entreprises. France Télévisions, pour ne pas la citer, mais je peux illustrer, France Télévisions, avant de s'engager dans cette politique achat, parce que là, il y a un engagement de la direction générale, ça a été les espaces verts sur les deux sites franciliens, ça a été un accord cadre sur la D3E, des constructions d'équipements électriques et électroniques et sur les plateaux de France TV, ça a été le journal interne L'Impression, et dernièrement, on est intervenu sur les équipes de production de Marseille, sur l'émission Plus belle la vie, sur la partie restauration. Donc, il faut... sans cesse innover, trouver des solutions innovantes, à la fois dans la recherche de nouveaux potentiels, et là nous avons des consultants qui interviennent dans Déco et qui pourront éventuellement alimenter et faire partager leur expertise de l'accompagnement des donneurs d'ordre et notamment des acheteurs. Et c'est vrai qu'on arrive à des succès qui sont très surprenants et auxquels on n'a pas forcément pensé. Et j'en ai d'autres, et j'en ai plein de magasins.
Et ça, c'est donc la deuxième partie du cercle. Oui. C'est effectivement la place de marché et l'accompagnement qui va avec. Mais si je suis encore plus exigeant et que je me dis, bon, je ne sais pas totalement faire, je suis acheteur, public ou privé d'ailleurs, je ne sais pas totalement faire. J'ai besoin effectivement d'organiser quelque chose de plus systématique, de plus pérenne, de plus abouti en termes de politique d'achat. Mais est-ce que je peux, en fait, je n'aurai pas le temps de le faire moi-même, puisqu'à aller voir des ESAT, des EA, organiser tout ça, c'est gentil, mais c'est chronophage. Est-ce que je peux être accompagné et comment faire pour effectivement devenir efficace et intelligent sur une politique à grand débattement?
Je ne sais pas si c'est devenir intelligent, efficace sûrement, mais je ne sais pas si c'est devenir intelligent. Alors c'est vrai que j'ai un peu anticipé ta question, Gérard, parce que j'ai débordé sûrement la fin de la journée, sûrement la fatigue aidant. J'étais parti déjà sur les prestations et sur les experts et sur les prestations d'expertise, parce que là, on est sur vraiment du sourcing très qualifié, parce que quel que soit l'annuaire et quels que soient les annuaires sur lesquels vous pourrez vous appuyer, sur le capacitaire, si vous n'avez pas une expertise très forte, ce qu'on appelle le RFI, hein, donc pour les acheteurs, mais tout l'accompagnement spécifique qui va vous permettre de détecter un centre de potentiel. On a nos clients aujourd'hui, certains clients qui sont à leur 9e accord, qui nous disent « on ne peut pas se poser là sur nos familles d'achat, regardez tout ce qu'on a, toutes les lignes d'achat que nous avons et sur quel potentiel on peut aller ». Ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui est, je parlais du sourcing qualifié. En fait, on est sur de l'amont, on est sur du sourcing de compétences. Je ne sais pas si c'est une terminologie qu'on peut employer, mais on est sur du sourcing de compétences. C'est-à-dire que bien en amont, on va voir est-ce que les établissements ont la capacité, la compétence pour réaliser tel type de prestation, et est-ce qu'ils en ont la volonté, parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir que la capacité, est-ce qu'ils en ont la volonté. Je vais vous donner un exemple très précis. On a travaillé pour la SNCF. Je viens de voir passer l'ancien directeur des achats de la SNCF dans notre assistance, Pierre Pelouzet, que je salue. On a travaillé sur une prestation qui n'est pas très fun, hein, c'était la rénovation des toilettes dans les TER sur la ligne Paris-Cherbourg. Donc c'est vrai que c'est pas très fun quand on en présente. En plus, on a été sollicité le 20 juillet, pour ceux qui connaissent le secteur, sourcer des établissements entre le 20 juillet et le 5 août, c'est pas simple pour ceux qui ont eu à le faire. C'est quand même un appel d'offres qu'on a pu engager. On a trouvé des prestataires, fournisseurs qui étaient en capacité de le faire. C'est aujourd'hui 200 000 euros de chiffre d'affaires. Un retour sur la contribution de 55 000 euros, c'est 10 équivalents temps plein. Et ça a coûté à l'organisation, puisque c'est l'entreprise qui nous finance sur ces aspects-là, c'était 3 journées d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ils ont la SNCF sur une activité pérenne et qui sera essaimable, parce que ce qu'on a fait sur les TER de Cherbourg, je pense qu'on peut les faire sur Chambéry ou sur d'autres régions, mais ça leur a coûté 3 000 euros hors taxes.
Tant qu'il y a des TER.
Ils font travailler 10 équivalents temps plein, et ils ont moins 55 000 euros de contribution.
D'accord.
Donc c'est en ça que j'appelle des prestations qui sont nouvelles, d'accord, parce que ce sont des organisations qui connaissent tout du secteur.
Et sur, pour aller un petit peu plus loin, parce que les acheteurs peuvent se faire accompagner, c'est bien. Mais Andeco fait aussi, a priori, des prestations de formation.
Oui, pour nous, c'est un peu notre cœur de métier. C'est l'acculturation des acheteurs et c'est aller plus vite avec un collectif. Là, je vais prendre un autre exemple, La Poste. La Poste, 10 minutes, il nous reste 10 heures encore, jusqu'à 22 heures. Sur La Poste, sur 3 ans, ils sont passés d'un quota de 1,8 à 5,28. Ils sont passés d'un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros hors taxes à 14,5 millions d'euros hors taxes. Alors soyons humbles, hein, ce n'est pas Andeco. Mais Andeco, ils participent parce que ne serait-ce que mutualiser, capitaliser un certain nombre d'expériences, ça permet d'essaimer dans d'autres régions et des organisations qui sont importantes comme ça ont tout intérêt à valoriser à l'interne ces expériences réussies parce que c'est des expériences qui fixent l'emploi à un niveau territorial et on sait qu'on est dans le service. Et que ça ne bougera pas et que ça ne sera pas délocalisé.
Alors, une dernière question avant de laisser les questions de l'assistance. Il y a des évolutions à prévoir sur les prestations de services. J'ai entendu parler de modules de calcul automatique des unités bénéficiaires pour arriver à faciliter la vie des acheteurs et leur relation avec le RH, puisque derrière, c'est le RH qui paye la contribution à GFIP ou FIP, donc ça, ce serait pas mal. Sur l'automatisation des relations avec la sirétisation, pour les acheteurs, c'est facile pour le sourcing. Tout ça, c'est prêt quand ?
Alors, ce sera très bientôt, puisqu'on va faire une communication. Maintenant, il faut qu'on le maquette. Hein, mais on a une expérience réussie avec le groupe Nokia, avec Alcatel-Lucent. En fait, on vient de les accompagner jusqu'à la télédéclaration de la DOETH, avec plusieurs étapes. Il y a eu... alors moi, je dis siretage maintenant. On nous a dit qu'il faut parler de siretage et pas de sirétisation.
Siretage, c'est comme le sourcing, on dit maintenant le sourçage.
Sourçage, voilà. Donc, je vais parler de siretage parce que maintenant, on m'a tellement mis... faut parler de siretage. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une première brique où on vous aide à identifier les fournisseurs ESAT ou EA. Vous n'avez pas forcément dans vos ERP les fournisseurs ESAT et EA identifiés. On vous aide à ça. On va vous permettre de savoir qui est fournisseur et qui entre dans ce périmètre-là. Une deuxième brique, et on va implémenter cette solution, et c'est Atimic d'ailleurs, une EA qui est partenaire de l'opération qui va nous la développer dans la plateforme Endeco Pasapa. On va avoir une solution pour la collecte des UBHA, les unités de bénéficiaires. Donc l'idée, c'est de mouliner l'ensemble des attestations avec vos fournisseurs et vous aurez le CERFA qui va sortir et qui va pouvoir être implémenté dans la télédéclaration que vous rendez soit au FIP, soit à la GFIP. Et la troisième brique, c'est les RH. C'est-à-dire que si vous voulez aller plus loin que les achats, on a un partenariat avec une autre entreprise adaptée qui s'appelle Atimic, donc on travaille avec deux EA, et vous aurez toute la collecte des informations sur les personnels. D'accord. Personnels, salariés, stagiaires, arrêt maladie, qui va vous permettre de mouliner, et on va jusqu'à la télédéclaration à la GFIP. Donc il nous reste maintenant, Gérard, par rapport à ta question, à la monétiser, cette intervention, à la maqueter. Et là, on aura l'intervention de Nokia qui est hyper satisfaite. Hein. C'était le 1er mars, la télédéclaration. Oui. Donc, on était en bêta-testeur avec eux. Donc, pour nous, il s'agit d'innover tout le temps, d'apporter des services, d'apporter des outils qui facilitent la vie des acheteurs. Et là, pour le coup, des acheteurs et des RH.
Très bien, merci. Y a-t-il des questions dans la salle pour aller plus loin? Je peux peut-être vous aider à faire la première question éventuellement, parce que je sais bien que c'est toujours la première la plus difficile, donc je m'en étais gardé une. Tout ça, c'est bien gentil, ces prestations, mais ce n'est pas gratuit. Donc ça se fait par abonnement. Et les abonnements sont-ils accessibles, par exemple, en fonction du niveau de service, évidemment, que l'on recherche?
Tu fais bien, on n'est pas vénal, en fait. Je me rends compte que nous ne sommes pas très vénal. Nos services, on est association loi 1901, donc notre objet, c'est d'exister tous les ans. Donc ce n'est pas forcément de rémunérer d'éventuels actionnaires. Donc on a des services qui sont...
Je peux confirmer que les membres du conseil d'administration sont absolument bénévoles. Hein.
Voilà. Donc on a personne. En fait, on a beaucoup tablé sur la massification. Et donc ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir un maximum de clients. Et un tour de table très qualifié. Ce qu'on a aujourd'hui, hein, c'est Saint-Gobain, Adeco, Steff, le groupe Total, La Poste, SNCF, la RATP, le groupe Chèque Déjeuner, Lucens, enfin, et j'en passe. Le développement durable que je vois aussi dans
qui est un ministère.
Ministère du développement durable.
Mais attends, l'assistance. Justement, les ministères, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Il y a des contraintes plus importantes que les entreprises privées. Et est-ce que les relations avec le FIP sont de même nature que les relations avec la GFIP dont tu parlais tout à l'heure?
Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas d'harmonisation entre le secteur privé et le secteur public. Donc, on a développé avec le public, avec leurs contraintes. Donc, nos interventions sont prises en compte dans le cadre du catalogue des aides du FIP. Ce qui n'est pas vrai à l'inverse pour le privé, mais le privé a d'autres ressources, puisqu'on utilise les accords d'entreprise ou éventuellement l'arrêté des 10% qui permet les dépenses déductibles de la contribution. Donc, on avance avec le privé différemment que le public. C'est vrai qu'à un moment, il faudra qu'on s'harmonise un peu. En termes de communication, ce sera plus simple pour nous. Mais sachez qu'on peut appréhender nos services de la même façon. Ils sont gratuits. Ils ne sont pas gratuits. Ils sont pris en charge à un certain moment. Mais on peut actionner le levier FIP pour les employeurs publics, et on peut actionner le levier accord d'entreprise ou arrêter des 10% de la contribution pour le secteur privé. D'accord. Et ça fonctionne très bien. Mais il faut mettre des moyens. Il faut mettre un peu de moyens, mais il faut mettre quand même des moyens.
D'accord. Ok, donc l'abonnement, vous avez, il est sur le site, les tarifs sont là et ils ne sont pas excessifs. Hein. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Bonjour. J'ai pas été là depuis le début, donc peut-être que j'ai pas tout suivi que ma question, vous avez déjà répondu. Donc je me présente, je travaille pour l'Agence pour la diversité entrepreneuriale et notre mission, c'est la mise en relation entre les TPE, les PME, les grands donneurs d'ordre. Est-ce que dans Matinale les informels et dans les accès aux services, est-ce que vous faites des rencontres entre ces grands comptes et ces ESAT et ces entreprises adaptées? Est-ce que ça fait partie du package non payant? Parce que...
Oui, oui.
Ouais, d'accord.
En fait, ça fait partie de nos actions. Et vous parlez des informels qui sont une matinale qui s'adresse aux acheteurs, publics et privés. Mais dans ces matinales, on invite toujours des fournisseurs, donc ESAT ou EUR. Et notre ADN, c'est la mise en relation, en fait. C'est l'intermédiation, l'interface et l'interfaçage entre les établissements et les donneurs d'ordre publics et privés. Et on est rémunérés, ce n'est pas votre question, mais notre modèle économique, c'est sur la prestation. Donc, on n'intervient pas sur la relation commerciale. Et on n'est surtout pas rémunéré sur le chiffre d'affaires qui est généré entre les établissements et les donneurs d'ordre, les fournisseurs et les donneurs d'ordre.
Alors ça sera effectivement une forme de conclusion, puisque on a effectivement sur ce terrain-là une expérience commune. L'idée de nos associations, que ce soit Endeco ou l'Obsar, qui sont formées de la même façon, hein, avec des personnes qui sont parfaitement bénévoles et qui travaillent effectivement dans le sens de l'intérêt général, c'est de faire du relationnel. Dans nos objets, enfin les informels en déco, comme dans le forum de l'Obsar ou d'autres, ben vous avez effectivement des lieux de rencontre. Et on s'adresse aux acheteurs prioritairement, mais on s'adresse aux acheteurs en leur montrant des bonnes pratiques, en leur montrant des bons exemples, en leur racontant des belles histoires, on peut dire ça comme ça, de façon à ce qu'effectivement on les embarque sur des choses dont ils comprennent que c'est accessible, que c'est jouable et que ça donne d'excellents résultats. Donc, effectivement, et d'ailleurs, un salon comme celui-ci le montre excellemment, 70 EA et ESAT aujourd'hui, je suis persuadé que la plupart d'entre eux ou d'entre elles repartent avec, je ne veux pas dire des carnets de commandes pleins, mais en tout cas des contacts probablement utiles et efficaces pour la suite. Donc, véritablement, l'idée, c'est de montrer que le secteur adapté et protégé est parfaitement capable de répondre à un haut niveau de qualité et de professionnalisme à des demandes d'acheteurs qui sont effectivement normalement pointues. Et à partir de là, on n'est plus dans le domaine du colisage de crayons de papier et de papier pour le bureau ou de simplement de prestations de base. On est dans des véritables relations entre de la demande et l'offre de services qui soient de haute valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, quoi. Merci de votre attention sur le sujet. On m'a demandé de couper, donc il est l'heure. Et
on a une minute.
Il y a une minute, non, même pas, 30 secondes.
Une minute. Je pensais que vous vouliez poser une question, mais vous pouvez poser
aucune.
Une question.
Non, vous étiez parfait.
D'accord. Non, juste redire, et ça, c'est important, on arrive encore, après la loi de 87, on est en combien, 2016 ?
Ouais.
À trouver des leviers pour les acheteurs, pour les accompagner et pour monter en maturité.
Oui,
et ça, c'est important parce qu'on n'est plus sur des récurrents. Il y a un ensemble de familles d'achats qui tombent et qui tombent régulièrement. Encore là, on nous a dit sur un service courrier, une grande entreprise. Donc, il y a plein d'Uber, enfin plein de chiffres d'affaires qui tombent. Et l'idée, c'est comment on va se retourner vers d'autres familles d'achats, d'autres fournisseurs. Et nous, on est même surpris d'arriver maintenant à retravailler aussi et d'aller encore plus loin.
Et à l'ère du digital, c'est plutôt sympathique. Voilà, merci. Oui, une dernière. Voilà. On va déborder.
On peut
là.
Pour madame.
On va déborder avec l'autorisation de l'organisateur.
Juste une question. Depuis le début, on parle la papeterie, tout ça, c'est terminé, il ne faut plus acheter.
Non, c'est pas ça.
Comment devenir les ateliers qui font ça?
Vas-y, attendez, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, simplement, les ateliers, effectivement, c'était généralement plutôt des commerciaux qui allaient chercher des commandes et qui les faisaient payer très cher en disant c'est pour le travail des personnes handicapées. Or, en fait, ce que faisaient ces commerciaux-là, c'est qu'ils achetaient à bas prix un certain nombre de matières premières qui les faisaient effectivement travailler en termes de mise en boîte, de colisage par un ESAT ou une OA, etc., et qui les revendaient effectivement très cher. Et ça, c'était tout simplement une honte, en quelque sorte, en termes de méthode. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. On est sur, il peut y avoir des commerciaux dans les ESAT et les OA, hein, ça y en a, j'en connais, qui sont d'ailleurs d'excellents professionnels. Mais ils vendent quoi? Ils vendent une valeur ajoutée. Ce n'est pas du tout pareil. Ils ne vendent pas cher une prestation de base, parce qu'en fait, eux, ils faisaient 10 fois la culbute au niveau du bénéfice hein, à l'époque. Hein. Et donc, c'était juste à prohiber, quoi. Et toutes les structures du handicap Toutes les fédérations, tous les syndicats professionnels du secteur du handicap se battaient contre ces pratiques qui ont donné une extrême mauvaise image au secteur. Aujourd'hui, on en est sur autre chose. On est passé sur un secteur qui offre des prestations de type professionnel et c'est excellent.
Alors, ça, pour ceux qui, okay, pour qui ceux augmentent 10 fois le prix, etc. Mais pour les structures qui sont réellement fabricantes de papeterie,
ah ben, ceux qui fabriquent, ils n'ont aucun problème. S'ils fabriquent du bon papier, c'est parfait. Non, c'est excellent. Hein, j'en connais d'ailleurs. Il n'y a aucun problème. Ils sont d'ailleurs référencés sur la base en déco. Il n'y a pas de souci. Non, mais il faut éliminer les margoulins, quoi, comme partout. Voilà, c'est fait. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée.
Merci.